Chapitre 20. Parlement mondial des religions, Melbourne, Australie. Padma s'approcha de la tribune. Elle déposa sur la table, devant Viorel Unor, une petite feuille de Bristol, une enveloppe bleue et un fin stylo argenté. Elle s'effaça comme une ombre, efficace. Le métropolite apprécia, esquiva le regard du frère Mozavi et s'appliqua à la suite de son récit.
Les affirmations de Fernand Navarra demeurent encore aujourd'hui une énigme. Est-il le premier homme à avoir découvert une preuve irréfutable de la présence de l'arche de Noé sur l'Ararat, ou un génial imposteur?
Navarra fera 4 voyages en Turquie, presque tous clandestins. Il les raconte en détail dans plusieurs ouvrages aujourd'hui épuisés. Au cours du 3e, en 1955, seulement accompagné de Raphaël, son fils de 13 ans, il prétend, photo à l'appui, avoir découvert sur le flanc de l'Ararat, dans une des grottes du glacier Paro, une poutre de 2 mètres de long. Aidé de son fils, il la hisse hors des glaces, la scie, la glisse dans son sac, franchit la frontière à la barbe des douaniers en la faisant passer pour du bois de chauffe. 13 ans plus tard, il monte une nouvelle expédition, officielle cette fois, accompagnée d'une dizaine de scientifiques, équipés de 700 kilos de matériel monté jusqu'au camp de base à plus de 4200 mètres. Il atteste du sérieux de leurs travaux par des heures de films tournés sur place. Après 7 jours d'exploration sur le site de 1955, il extrait à nouveau plusieurs fragments de bois pris dans les glaces. Comme les premiers échantillons, le bois sera envoyé à divers laboratoires de datation. La grande majorité des expertises seront formelles. Le bois des poutres descendu de l'Ararat est identifié comme du quercus, connu pour être un bois de chêne lourd et compact de la région méditerranéenne, utilisé pour les constructions navales depuis la haute antiquité. Les estimations affirment que l'âge du bois de Navarra se situe aux alentours de 5000 ans. Les yeux noirs du père Mozavi lançaient des éclairs. Il effleura l'écran tactile pour demander la parole. Sa question se démultiplia dans les enceintes encastrées au mur.
Navarra était-il un homme digne de foi ?
Les représentants s'agitèrent devant la promesse d'un dialogue. Le métropolite afficha un sourire énigmatique.
« Digne de foi, frère Mozavi. Eh bien, si c'est ce que vous sous-entendez, Fernand Navarra n'avait rien d'un fanatique de Dieu.
Il était chef d'entreprise, père de famille, un aventurier qui semble avoir toujours privilégié la dimension scientifique dans ses investigations. »
Devant la moue circonspecte du prêtre Ménonite, le métropolite ajouta que personne n'avait jamais mis en cause la crédibilité de Fernand Navarra. Il était clair aujourd'hui que son action n'était en rien commanditée par un quelconque mouvement religieux. D'ailleurs, la recherche de l'Arche de Noé ne s'arrêta pas à sa découverte. La fondation Search, qui avait aidé Navarra lors de sa dernière mission, continuait encore aujourd'hui ses prospections, sans véritable succès. La plupart des expéditions depuis 1970, bien que parfois très médiatisées, étaient revenues bredouilles. Presque toutes étaient des projets américains, financés par des mécènes proches des théories créationnistes. Elles obligèrent également la CIA et le Foreign Office à s'intéresser discrètement à la question. Outre les affirmations bibliques prises au pied de la lettre par les Américains influents, l'Ararat restait au cœur d'une poudrière géopolitique par laquelle passait, en pleine guerre froide, l'une des lignes de contact Est-Ouest. Viorel Unor coula un regard furtif en direction de William Crick, le représentant adventiste, qui s'agitait avec impatience sur son siège. Il se hâta d'enchaîner.
Ainsi, l'un des plus célèbres chercheurs d'arche pendant les dernières décennies fut le colonel James Irwin, l'un des 12 astronautes à avoir marché sur la Lune. Il se lancera à l'assaut de l'Ararat de 1972 à 1982.
Le métropolite marqua un bref silence.
Il ne trouvera jamais l'arche. Pas plus que le bulgare John Leeby et ses 8 missions. Erin Cummings ou Richard Bright. Ensuite, les expéditions deviendront de plus en plus complexes à organiser. La guerre civile éclate entre Turcs et Kurdes, et le mont Ararat, classé en zone militaire, devient quasiment inaccessible aux étrangers. Dès lors, seules les images satellites permirent d'espionner l'Ararat. Autre temps, autre technique.
Viorel !
Le pasteur adventiste s'était levé, le visage rubicon.
Viorel ! Tu arrêtes l'histoire un peu tôt, non? Tu as oublié de parler de l'expédition de 2007.
La barbe du métropolite dissimula un soupir.
J'y venais, William, j'y venais.
De l'autre côté de l'hémicycle, le frère Mozavi apprécia l'incident.
un grain de sable inattendu venait enfin perturber le discours bien huilé de Viorel-Hunor. Le métropolite poursuivit.
En 2007, après la réouverture du mont Ararat par les autorités turques, un événement attendu depuis des années par les chercheurs d'Arche. Une expédition est partie de Hong Kong pour marcher dans les traces de Navarra. Même lieu, même objectif, même rigueur dans le protocole scientifique, mais avec une technologie de 50 ans plus perfectionnée. Aux yeux du monde, via YouTube ou Dailymotion. Cette expédition prétend, elle aussi, avoir exhumé du bois fossilisé des grottes du glacier Paro. À près de 4000 mètres, bien au-dessus du seuil de la limite de végétation. Les échantillons ont été examinés par le département des sciences de la Terre de l'Université de Hong Kong. L'expertise est sans appel. Il s'agit de bois pétrifiés qui datent de plusieurs milliers d'années. Seule petite différence avec Navarra, l'expédition n'était pas financée par un aventurier isolé, mais par l'Église adventiste.
Le point triomphant de William Creek écrasa la tablette d'acajou.
Tout à fait! Le fragment d'Arche de Noé est d'ailleurs en ce moment même exposé à Hong Kong, dans le parc d'attractions Noah's Ark que nous avons ouvert en 2009 sur l'île Mawan. Le premier parc éducatif et évangélique qui...
Un brouhaha de protestation enfla dans les rangs de l'hémicycle. Le frère Mozavi s'amusait beaucoup à présent. Le métropolite toussa dans le micro.
D'accord, William. Nous avons compris. Tu connais nos règles en ce qui concerne le prosélytisme à cette tribune.
L'adventiste bafouilla pour la forme de vagues excuses.
Si vous voulez, une seule précision alors. Soyons clairs. L'expédition Hong Kong 2007 était financée par l'Église adventiste, mais les hommes qui sont montés sur l'Ararat, qui ont trouvé le bois pétrifié, qui l'ont expertisé, ne sont ni des moines ni des pasteurs. Il s'agit de scientifiques reconnus. Des glaciologues, des paléontologues, des archéologues.
Quelques membres soupirèrent encore. Le pasteur afficha un sourire satisfait.
« Bien entendu, William, »
glissa Viorel-Hunor. Il toisa le frère Mozavi avant de continuer.
« Donc, pour en terminer avec cette surprenante histoire de la quête de l'Arche de Noé, nous sommes à peu près certains que du bois équarri, vieux de plusieurs milliers d'années, a été trouvé sur les pentes de l'Ararat entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. »
William Creek hochait la tête en cadence.
Ce fait avéré n'empêche d'ailleurs aucunement les sceptiques de développer leurs arguments. Il pourrait s'agir des restes d'un temple construit jadis en haut du mont, ou de reliques antiques, hissées des siècles plus tard par des croyants, ou encore d'une habile manipulation montée de toutes pièces par des aventuriers avides de gloire.
Creek sauta sur son micro.
Ou de la preuve formelle de l'existence de l'Arche de Noé.
Les deux tiers de l'assistance sourirent à la dernière affirmation du pasteur, principalement les représentants des grandes religions monothéistes. « Comme s'ils partageaient une vérité inconnue des autres », s'étonna le frère Mozavi. L'Arche de Noé sur l'Ararat. Quelle bonne blague ! Viorel-Hunor enchaîna avec détermination avant que le brouhaha ne s'effiloche en un silence troublant.
« Merci, William. Il ne nous appartient pas ici de trancher, surtout pas. Frère Mozavi, ai-je comblé vos lacunes ?»
Le prêtre bolivien acquiesça. Que répondre d'autre ? Viorel-Hunor profita de la courte pause pour appeler Padma à la tribune. Il glissa le bristol dans l'enveloppe, puis inscrivit quatre mots. Pour le frère Mozavi. Viorel-Hunor était parfaitement capable, tout à la fois, d'occuper la tribune par un long monologue, d'arbitrer les débats dans l'hémicycle, et de rédiger en toute discrétion un billet à destination des représentants trop curieux. Il était conscient qu'à partir de cet instant, aucune fausse note n'était autorisée. Les choses sérieuses allaient enfin commencer. La partition avait soigneusement été répétée. Il toussa dans son poing fermé. Trois petits coups, comme au théâtre.
« Bien. Puisque chacun est éclairé, passons maintenant à ce qui nous réunit ici. L'anomalie d'Ararat. Nous ne parlons plus seulement d'une poutre sur les flancs du mont. Cette fois-ci... »
Il fit mine de chercher ses mots.
Nous parlons des glaces éternelles qui recouvrent depuis toujours le sommet d'Ararat. 800 000 mètres cubes. Et, pour vous dresser un brutal résumé des conclusions du rapport du DIRS, si la communauté internationale ne réagit pas, dans quelques décennies, ces mètres cubes de glace n'existeront tout simplement plus.
Un silence de mort s'abattit sur la salle lorsque ces derniers mots furent traduits en 30 langues.